Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir avec Olivier Bois. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir. À la une, elle brille enfin cette flamme olympique dans le ciel de Tokyo. La cérémonie a été magnifique, même dans ce stade quasiment vide. Après tellement d'incertitudes, l'empereur du Japon Naruhito a donc prononcé cette phrase: je déclare ouvert les Jeux de Tokyo. Tiens, en version originale, écoutez.
Watashi wa koko ni dai 32 kai.
Et on retrouve dans un instant... Et on retrouve justement dans un instant Nicolas Burnand qui a fait partie des 1000 chanceux à suivre toute la cérémonie d'ouverture, tout en symbole, alors que le monde attend de pouvoir se relever après la pandémie. Et puis notez-le, 18h30, 19h, votre nouveau rendez-vous. On refait les jeux avec Marie Portolano, qu'on accueille ce soir sur RTL. Avec très grand plaisir, elle présente l'émission avec Jean-Michel Rascol. À la une toujours ce soir, la flambée épidémique continue. 22 000 cas de Covid détectés hier, le chiffre est en constante augmentation. 22 clusters sont déclarés dans les campings vendéens. Les jeunes animateurs non vaccinés sont les plus touchés. L'invité d'RTL Soir à 18h15 sera le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Il s'appelle François Blanchet. Il sera avec nous donc tout à l'heure. Il faudra bien un pass sanitaire pour rentrer à l'hôpital pour les soins, en tout cas non urgents. Le gouvernement n'a pas cédé sur ce point, même si sur le terrain cela va poser de gros problèmes d'organisation. Exemple à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et puis vous entendrez dans ce journal le très bel hommage que rend ce soir Laurent Baffie. Après la mort de Jean-Yves Lafesse, il le considérait comme le meilleur, tout simplement le meilleur en matière de canular. La météo, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors après les fortes chaleurs, voilà donc les orages.
Eh ben oui, c'est parti, ça a déjà tenu très fort sur la Bretagne toute la journée. Alors ça commence à se tasser, même si on a encore quelques impacts orageux à l'heure qu'il est. Ça va se développer entre le Massif central et la Bourgogne la nuit prochaine, assez sévèrement d'ailleurs. On a déjà quelques impacts en ce moment dans le Puy-de-Dôme. Et demain, on va retrouver ce temps orageux pratiquement partout, des averses orageuses qui vont traverser tout le pays d'ouest en est, en épargnant quand même l'extrême sud-est entre les Alpes du Sud, la Corse, le Languedoc et le Roussillon devraient également profiter de quelques belles éclaircies pour les autres. Donc des averses assez fréquentes et des températures qui vont baisser un petit peu seulement sur la moitié nord. 22 degrés à Quimper dans l'après-midi, 24 au Havre, il fera 25 degrés à Tours, 26 à Paris et Valenciennes, 30 degrés encore à Mulhouse et à Montélimar et 32 degrés à Grenoble.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
RTL Soir. RTL à Tokyo.
Elle a été magnifique, cette cérémonie d'ouverture à Tokyo, malgré tout, malgré ce stade olympique de 65 000 places quasiment vide, malgré tous les doutes qu'on a pu avoir ces derniers mois, les JO de Tokyo ont officiellement commencé. Bonsoir Nicolas Burnand.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Envoyé spécial d'RTL. Vous avez eu l'immense bonheur de suivre toute la cérémonie à la fois sobre, classieuse et tout en symbole, Nicolas.
Mesdames et messieurs, le grand moment.
Oui, au centre de l'enceinte, une athlète recroquevillée se déploie lentement dans un rond de lumière, symbole du retour à la vie en ces temps de pandémie. Les officiels se lèvent, le drapeau du Japon fait son entrée, puis l'hymne national retentit. Interprétée par Misia, envoûtante chanteuse japonaise. Devant elle, cinq canots olympiques construits en bois sont réunis. La parade des nations peut commencer. La Grèce d'abord, berceau de l'olympisme, suivi plus tard par la France. En avant-dernière position en tant que pays hôte des prochains Jeux. Le porte-drapeau Samir Aït Saïd exécute un saut périlleux en arrière devant une Clarisse Agbenienou-Hilar. Le duo agite ensemble à bout de bras le drapeau tricolore. Mais un nouveau frisson traverse déjà le stade. La reprise d'Imagine de John Lennon, symbole de paix et d'espoir. Dans le ciel, 1824 drones forment une boule en forme de terre. D'un pas solennel, l'empereur du Japon Naruhito s'avance alors sur l'estrade officielle.
Je déclare ouvert les Jeux de Tokyo, célébrant la 32e Olympiade de l'ère moderne.
La torche olympique est portée par un athlète paralympique en chaise roulante avant d'être remise à la tennisman japonaise Naomi Osaka. Elle gravit des escaliers pour enflammer le chaudron au sommet d'un majestueux mont Fuji. Ce soir, le pays du soleil levant a offert au monde une cérémonie digne de leur goût de l'esthétisme et de la technologie.
Merci beaucoup Nicolas Burnand, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30, votre nouveau rendez-vous sur RTL, je vous le rappelle. On refait les jeux, présentés par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Il est 18h04 sur RTL, on en vient maintenant à l'inquiétude qui continue de grandir. 22 000 cas de Covid détectés hier en une seule journée. Le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy se montre pessimiste et prévoit 50 000 cas quotidiens début août, au rythme où va la propagation de ce variant Delta, 60% plus contagieux. L'épidémie touche beaucoup les jeunes. 22 clusters, par exemple, ont été repérés dans des campings de Vendée. 89 cas en tout. La plupart touchent de jeunes animateurs non vaccinés. Et c'est le cas, hein, Nicolas Bobby, dans ce camping de Saint-Jean-de-Mont.
Cette contamination, transmise par des saisonniers non vaccinés, n'étonne pas du tout ces campeurs.
Quelque part, c'est pas étonnant, quoi. Quand on voit les serveurs ou autres qui n'ont pas de masque, bon, c'est le minimum syndical, hein, c'est ceux qui sont en contact de tout le monde, au plus près des gens, donc ça peut être très très vite. Hein. Il est là, il est sous le menton.
Ah, les vacanciers, c'est open bar. Hein. Personne n'a le masque en tant que vacancier, vous pouvez le vérifier par vous-même. Hein. Moi, je le mets par habitude. Hein.
Bah, moi, c'est vrai que moi, je me relâche un peu, je fais plus trop attention aux trucs sanitaires.
Très inquiets pour la suite de leur saison, les propriétaires de camping de Saint-Jean-de-Mont refusent de s'exprimer. Saisonnier masqué, Maxime affirme respecter tous les gestes barrières, mais ce n'est pas très facile.
Là où on est, c'est un endroit où ça brasse vachement de touristes et qu'on est vachement en contact avec eux, même le soir, en soirée et tout. Après, c'est aussi les gestes barrières qui sont des fois pas respectés. Et comme en camping surtout, c'est très compliqué de les respecter dans les sanitaires, les parties communes et tout. C'est ça qui, je pense, peut l'expliquer.
Pas encore vacciné, mais logé sur place, le jeune homme a restreint toutes ses sorties.
Reportage de Nicolas Bobby, correspondant RTL en Vendée. L'invité donc d'RTL Soir à 18h15 sera le maire précisément de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, François Blanchet. On lui demandera si des mesures sont à l'étude pour endiguer la nouvelle vague. Et puis sachez que deux autres clusters ont été identifiés dans des discothèques, dans les Vosges et dans le Doubs, avec en tout une centaine de personnes touchées par le Covid. Alors on parlera quand même avec le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de vacances. La saison bat son plein évidemment, les touristes sont de plus en plus nombreux. Ça va être un week-end chargé sur les routes et on va faire d'ailleurs un point sur vos conditions. Bonsoir Sarah Loubacouche.
Bonsoir.
Est-ce que c'est déjà chargé d'ailleurs ce soir?
Oui, de plus en plus de monde sur la route aujourd'hui. Là, tout de suite, on en est à plus de 700 km de bouchons cumulés et c'est dans le sud du pays, évidemment, que vous êtes les plus nombreux ce soir. La descente de la vallée du Rhône est toujours compliquée. Sur l'A7, vous circulez en accordéon de Albon à Loriol-sur-Drôme. En tout, comptez 2h40 pour aller du sud de Lyon à Orange. C'est une heure de plus que lorsque le trafic est fluide. Et si vous continuez en Provence, la patience sera aussi requise. Sur la 8, la traversée d'Aix est compliquée dans les deux sens. Une bonne dizaine de minutes de ralentissement. On s'accroche aussi pour vous qui allez prendre la route de demain, parce que la journée de samedi, demain, est classée rouge dans le sens des départs. Courage à tous.
Merci beaucoup Sarah Loubacouche. Et vous êtes avec nous, avec nos auditeurs, tout au long du week-end pour les accompagner sur
.fr.
Olivier Bois, RTL Soir.
Et on va revenir maintenant sur cette course contre la montre engagée contre le Covid. Les députés ont fini par voter au bout de la nuit dernière la loi sur les mesures, notamment sur ce pass sanitaire. Le gouvernement n'a pas cédé. Il sera obligatoire aussi pour rentrer à l'hôpital pour les soins non urgents. Pass obligatoire également pour les visiteurs dans ces hôpitaux. Zoé Pallier, vous êtes rendue à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et la mesure a été parfois plutôt mal accueillie.
Oui, par Annie, par exemple, elle sort de son rendez-vous d'un pas lent, fatiguée. Elle vient d'apprendre que dans une semaine, il lui faudra se faire tester pour rentrer ici, car pas question pour elle de se faire vacciner.
Je ne pourrai plus faire mes consultations, mes soins, tous les 4 mois.
Ça ne vous fera pas changer d'avis?
Non, pas du tout. On ne soignera plus, voilà.
Alors les avis sont quand même partagés. Michel, venu prendre un rendez-vous pour dans 15 jours, elle est soulagée par la mesure.
On va dans un hôpital, il y a des malades, il y a tout un tas de gens fragiles. Je trouve qu'il est normal, effectivement, que tout le monde ait un pass. Ben, c'est quand même rassurant.
Il y a aussi quelques blouses blanches qui sortent du travail en ce moment. Nadia est infirmière.
De ne pas faire rentrer les gens s'ils n'ont pas de pass sanitaire, pour nous c'est un petit peu compliqué. Alors on sait que maintenant, dans le cadre d'une urgence, ils accepteront qu'ils n'ont pas de pass sanitaire, mais comment on va vérifier? Quel type d'urgence? Qui aura les compétences pour dire c'est une urgence, pas une urgence, au moment où les gens rentreront dans l'hôpital? Pour nous, c'est un peu gros.
Et les soignants ici s'inquiètent surtout pour le moral des patients qui ne pourront plus tous recevoir de visite. Un infirmier me le disait, pour eux, ce sera vécu comme un autre confinement.
Merci beaucoup Zoé Pallier à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et puis Santé publique France le confirme d'ailleurs, les hospitalisations ont commencé à augmenter à nouveau, conséquence donc de la flambée de cette quatrième vague. Il était un génie du canular et des caméras cachées, toujours le petit doigt en l'air. Jean-Yves Lafesse est mort, il avait 64 ans. Il souffrait depuis un an de la maladie de Charcot et son état de santé s'est brusquement dégradé hier. On se souvient évidemment de ce sens de la répartie inimitable. On en écoute juste un extrait.
Excusez-moi monsieur, je suis handicapé les bras. Vous pouvez prendre ma clé dans la poche gauche s'il vous plaît, la clé de ma voiture, merci. Au voleur ! Au voleur !
Et il faut voir évidemment la tête de ce monsieur qui ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. On est avec Laurent Baffy ce soir. Merci d'être avec nous, Laurent. Vous êtes très ému aujourd'hui. Il vous faisait rire comme nous tous, Jean-Yves Lafesse.
Bien sûr. Il a fait rire la France entière. Et surtout, je pense qu'en matière de canular téléphonique, c'était incontestablement le meilleur. Il faisait des personnages, il faisait des voix, il incarnait des gens. Et vous savez, le principe du canular, c'est un peu d'emmerder les gens. Et lui, il avait une grande poésie. Il a humanisé les blagues en créant des personnages comme Germaine Ledoux. Et puis, il a fait des canulars épiques, je pense, à la gare de Monaco. Pour moi, il a laissé, il laisse une œuvre. Alors, je sais que ça va picoter des gens qui pensent que l'humour est un art mineur. Mais avec ses centaines, voire ses milliers de canulars, je pense qu'il laisse une œuvre. En incarnant ces personnages, ça lui permettait de faire croire l'incroyable. Quand il explique à une dame qui a la calypso dans ses canalisations et qu'elle a parlé au commandant Cousteau, ou que les extraterrestres ont débarqué, ou tout ce qu'il a pu faire, ou que le mec il doit changer de nom parce qu'il s'appelle Connard, enfin voilà, on pourrait rire encore pendant des heures, bien que la journée se prête pas tellement à rien.
Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous avez eu envie de revoir ces sketchs?
J'ai appris ça, j'ai pris une claque en apprenant ça. C'est bizarre la vie, parce qu'à l'époque, c'est lui qui m'avait annoncé la mort de Gainsbourg, et c'est lui qui m'avait mis une claque. Là, il m'en met une deuxième. Et puis, j'ai immédiatement appelé mon ami Raphaël Mesrahi, qui est en pleurs, parce qu'ils étaient très proches. Et voilà, c'est pas une très bonne journée. Voilà.
L'émotion, merci Laurent Baffy. On entend votre émotion et l'hommage que vous rendez après la mort donc de Jean-Yves Lafesse. Le gouvernement à la rescousse de la Poste, une enveloppe d'un demi-milliard d'euros va être débloquée pour 2022. L'objectif, c'est de renflouer les caisses et de permettre à la Poste de continuer à être aussi efficace et rapide que possible. Mais dans tous les cas, Arnaud Touche, la distribution du courrier va continuer pourtant à être de plus en plus lente.
Absolument, car la Poste proposera désormais la distribution du courrier à J+3, cette nouvelle offre sera commercialisée en 2023. Cela coûte en fait moins cher à l'entreprise, car plus la livraison est rapide, et bien plus cela est complexe et surtout onéreux, Olivier. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez envoyer une lettre à J+1 avec un timbre rouge, J+2 avec un timbre vert. Ces délais subsisteront, bien sûr, mais une lettre distribuée 3 jours plus tard deviendra presque la norme, ce que regrette Alain Barre de la CGT La Poste.
L'État investit 500 millions pour le retour de la Poste à cheval. Parce que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, on pourrait tout à fait être sur du J+1, c'est ce qui a été fait il y a plusieurs années, sur tout le territoire. Sauf que l'abandon de cette qualité de service, c'est uniquement par rapport à une question et un souci de rentabilité.
Alors il faut dire aussi que le nombre de courriers acheminés par l'entreprise postale a lourdement chuté, moins 18% l'année dernière. Et l'activité colis, pourtant boostée en 2020, n'a pas suffi à stopper le déficit.
Merci beaucoup Arnaud Touche du service économique et social d'RTL. Le Maroc porte plainte contre Amnesty International et Forbidden Stories, qui accusent le royaume d'avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus pour faire espionner des opposants politiques ou encore des journalistes et même le président français Emmanuel Macron. Écoutez, maître Olivier Baratelli, il est l'avocat du Royaume du Maroc.
Depuis 2019, le Royaume du Maroc réclame des preuves, des pièces, des listes, des documents, des attestations. Rien ne lui est produit. Maintenant, Amnesty International est au pied du mur. Le compte à rebours judiciaire a démarré. La procédure pénale française fait que Amnesty International et Forbidden Stories vont avoir 10 jours pour amener sur la table concrètement des pièces, des documents qui tendraient à prouver leurs allégations. Vous imaginez bien que si depuis 2 ans rien n'a été fourni, c'est pas dans un délai de 10 jours devant la justice française qu'Amnesty va réussir à prouver quoi que ce soit. Moi je vous affirme que le Royaume du Maroc n'a jamais utilisé ce logiciel espion Pegasus et n'a jamais eu recours à NSO. Cette procédure va permettre de faire toute la lumière. Et grâce à cette lumière judiciaire, vous verrez que ce que je vous affirme est rigoureusement exact. Et on aura des prétentions journalistiques contre des certitudes judiciaires.
Maître Olivier Baratelli, avocat du Royaume du Maroc, il répondait à Bénédicte Tassar. Une première audience procédurale est prévue le 8 octobre prochain. Allez, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh bien, c'est une opération de sauvetage périlleuse et réussie la nuit dernière dans le massif de la Chartreuse en Isère. Un groupe de 9 personnes, dont 3 enfants qui étaient en sortie de canyoning, s'est retrouvé bloqué dans une gorge, piégé par la nuit avec un débit de l'eau qui commençait à être extrêmement fort. L'opération de secours a duré de 23h à 1h30 du matin. C'est le major Ali Krim de la CRS Alpes de Grenoble qui était à la manœuvre.
On est dans un milieu périlleux, hein, de fait, hein, et là plus particulièrement dans ce genre de canyon, qui est un canyon encaissé avec très peu d'échappatoires, voire pas du tout. C'est effectivement pas très prudent, surtout avec des enfants, même si c'était des ados. Hein, il y a quand même un enfant de 8 ans dans le groupe. La difficulté dans ce genre d'intervention, c'est déjà d'aller au contact des victimes et ensuite d'adapter les techniques en fonction des conditions qu'on rencontre sur le site. Des techniques de cordes, et plus particulièrement de tyroliennes, ont été mises en place pour évacuer tout le groupe. Ça se termine bien parce qu'il n'y a pas de blessés, mais quand même, on peut s'interroger sur la démarche globale du groupe qui sont engagés dans ces conditions-là.
Le major Ali Krim de la CRS de Grenoble, il répondait à Guillaume Chiez. Deux mots de sport. D'abord, le feu vert du tribunal de commerce, Gérard Lopez devient le propriétaire des Girondins de Bordeaux. Et puis précisément, à 2 semaines de la reprise du championnat de France de football, eh bien, le tribunal de Nanterre a donné raison à Canal+, face à beIN Sport, et la chaîne est donc autorisée à casser le contrat qui prévoyait qu'elle diffuse 2 matchs par journée la saison prochaine. On va faire une pause sur RTL, il est 18h16 et dans un instant on accueille l'invité d'RTL Soir qui est François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur la côte vendéenne. On lui parlera de l'été quand même qui se passe là-bas et puis de la menace toujours du Covid. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.